Costumer la Renaissance, c'est le titre de l'exposition qui se déroule jusqu'au 19 septembre en Tarn-et-Garonne au château de Gramont. Et plus précisément, c'est Costumer la Renaissance, cinéma, télévision. Et à l'occasion de l'inauguration de cette exposition samedi, Isabelle Parisi, qui en est la co-commissaire, sera présente pour une conférence sur les costumes de la Renaissance à l'écran. Elle est avec nous par téléphone. Isabelle Parisi, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes maîtresse de conférence en histoire culturelle à l'Université Lille 3, enseignante-chercheuse sur la culture vestimentaire, alors de l'époque moderne. Est-ce que c'est ça ?
Oui, de l'époque moderne et plus particulièrement de la Renaissance.
D'accord. Ma première question serait, puisque ça porte sur les costumes, la mode de l'époque de la Renaissance et le cinéma, est-ce que le cinéma met bien à l'écran la mode de la Renaissance ?
C'est une mode de la Renaissance pour le cinéma que met à l'écran, qui est mise à l'écran, je dirais. C'est ce que je vais essayer de faire comprendre lors de la conférence d'ailleurs que je suis en train de préparer là pour samedi.
Ouais.
Pour samedi prochain, hein, évidemment dans la démarche de documentation des créateurs de costumes, ils s'inspirent beaucoup des représentations iconographiques parce que les costumes de l'époque sont très très rares dans les collections muséales. Et maintenant, on a aussi toute une documentation technique qui permet d'aider les créateurs de costumes. Mais ils s'approprient l'esthétique de cette période, les formes vestimentaires, et les réinterprètent à des fins très variées. Ça dépend aussi des accords avec la réalisation, la production, etc. Il y a deux types de films. Hein. Vous avez des films qui se veulent historicistes, si je peux dire ça comme ça, qui veulent être assez fidèles à l'esthétique des costumes de la Renaissance, et vous avez des films qui prennent de très très grandes libertés par rapport à ces modes anciennes.
Avec des anachronismes peut-être, du coup ?
Oui, voilà, c'est ça. Alors, différents types d'anachronismes, hein. C'est plus compliqué que ça. Ça ne peut paraître comme ça, mais le plus facile à retrouver, c'est le lien entre la mode représentée et la mode contemporaine de l'époque qui produit le film. Parce que quand on regarde un petit peu les modes de la Renaissance, avec des fraises, des vertus gadins, des espèces de culottes courtes bouffantes pour les hommes, etc., des vestes très très ajustées pour les hommes, ça peut paraître, et puis des coiffures aussi un peu extravagantes par rapport à nos usages à nous, c'est un peu perturbant. Ça crée une étrangeté pour le public. Donc le cinéma, il faut que au cinéma ou dans les séries télé, il faut que le public puisse s'identifier un petit peu avec les personnages et aussi que son regard ne soit pas brouillé par l'étrangeté des silhouettes. Donc depuis l'origine du cinéma, hein, les créations de costumes, même pour le théâtre auparavant, hein, c'était la même chose, prenaient en compte aussi l'esthétique de la période de production du costume. Ce qui fait que si on connaît bien l'histoire de la mode contemporaine du XXe siècle, on peut retrouver comme ça des touches dans la coupe du costume, dans aussi les choix de tissu, bien sûr, mais dans l'esthétique qui est donnée, le rapport du vêtement au corps, on peut retrouver aussi les usages vestimentaires et les modes vestimentaires de l'époque de production du film. Donc on peut à la limite dater un film historique de son époque de production en étudiant les costumes. Donc pour dire, ah, ça c'est un film qui a été produit dans les années 40. Oui. Ça c'est un film qui a été produit dans les années 50.
Il y a différentes représentations de la mode selon les époques du cinéma. Et Isabelle Parisi, comment on sait exactement finalement quel mode il y avait à quel moment à la Renaissance par exemple ? Parce que est-ce qu'il y a un rapport avec aujourd'hui ? Par exemple, aujourd'hui, la mode, ça change très vite. Est-ce qu'à l'époque, ça changeait aussi vite ?
Oui, aussi vite. On n'est pas dans une industrie de la mode qui peut changer, renouveler sur les portants de grandes chaînes à bas prix ou même dans les collections de mode deux fois par an, les formes, etc. Hein, puisqu'il n'y a pas cette industrie derrière. Mais oui, il y a La mode change, la mode évolue, hein, on le voit quand on... Bon, l'image, l'iconographie, c'est ce qui est le plus parlant pour voir cette évolution, mais pas au rythme d'aujourd'hui, bien sûr. Mais pour les élites sociales, c'est elles qui font la mode. Il y a aussi un principe qui est important dans la mode, c'est le principe de distinction. Il faut se distinguer socialement. Et quand des milieux sociaux inférieurs peuvent imiter des formes vestimentaires ou des couleurs, etc., on va se démarquer. Il y a une sorte de course en avant pour garder son identité comme membre des élites sociales. Et donc, quitte à porter des choses très extravagantes qui sont importables quand on travaille comme artisan ou quand on travaille au champ.
Et voilà. Quelles sont les sources que vous avez en tant que chercheuse pour retrouver quel mode, quel tissu, quelle forme, à quelle époque ?
Ben, il y en a trois. La première, celle qui peut nous paraître plus... ce sont les vêtements de l'époque, mais par ouais. contre, pour cette période-là, ils sont extrêmement rares. Ouais. Donc souvent, ils sont issus de dons qui ont pu être faits à des églises ou issus de tombes, de fouilles archéologiques, mais d'excavations. Enfin, quand on a sorti des corps de grandes familles princières, on peut retrouver des vêtements, ou bien des vêtements que des familles princières ont conservés par fidélité à un personnage important, ou voilà, quelques pièces ici et là. Donc, mais en France, on est extrêmement pauvre pour ça. On a aussi les sources iconographiques, hein, donc les représentations, puisque alors évidemment, elles concernent évidemment essentiellement les élites sociales, c'est elles qui ont ce besoin de se représenter pour paraître socialement. Donc elles sont représentées avec des vêtements, et on a une attente que ces vêtements soient représentés fidèlement, pas forcément comme une photographie, mais dans la matérialité, dans le luxe, l'effet de réalisme, il y a une attente des peintres à cette époque par rapport à ça. Et on a aussi tout un corpus avec l'imprimerie. Donc l'imprimerie, c'est pas seulement les textes, c'est aussi des images. Vous avez aussi une curiosité pour les apparences vestimentaires d'autres peuples. Donc on a des livres qui paraissent, il y en a eu un seul en France, puisque l'imprimerie était occupée plutôt après par les débats des guerres de religion, mais on en a beaucoup plus en Allemagne et un petit peu en Italie, qui représentent les habits des peuples connus de cette époque. Donc ça, c'est une source aussi très importante. Et sinon, on a des sources écrites. Alors les sources écrites, vous avez les témoignages des contemporains, voilà, dans leurs mémoires, dans leurs journaux privés. Vous pouvez aussi, il y a les archives des métiers, hein, des corporations de métiers qui travaillent dans le vêtement, pour les règlements de fabrication plutôt. Et vous avez aussi les comptabilités princières ou aristocratiques, quand les bribes qui nous sont restées. Et on a aussi... très important là pour pouvoir travailler davantage sur les milieux plus populaires, ce sont les inventaires qui étaient faits après les décès. On inventait tous les biens après un décès dans une maison, y compris les vêtements.
Et il existe, je ne sais pas, un musée qui daterait un peu d'une conservation quelque part de ces vêtements-là ?
Pour trouver des vêtements de la Renaissance,
ouais.
On les trouve actuellement dans les musées.
Ouais.
Alors, aux Arts Déco à Paris, c'était extrême. Ils ont une pièce hein, pour point ouais. qu'ils ont acheté, mais je crois que c'est le seul vraiment du XVIe siècle qu'ils aient. Il faut plutôt aller en Scandinavie, à Stockholm, par exemple. Vous avez aussi en Allemagne, en Saxe, Dresde. Vous avez des collections aussi au Musée national allemand à Nuremberg, en Angleterre, au Viennet.
D'accord.
Alors, ça sera plutôt fin XVIe. Voilà, donc on trouve quand même quelques pièces ici. En Italie aussi, vous pouvez à Florence, au Palais Pitti.
Isabelle Parisi, l'exposition dont on parle aujourd'hui et pour laquelle vous allez faire une conférence samedi, c'est Costumer la Renaissance, cinéma, télévision. Donc j'imagine que les costumes, les vêtements exposés, aucun ne sont d'époque. C'est tous ces vêtements sont des créations du cinéma.
Alors, vous allez dire que je nuance tout, mais si ils sont d'époque, ils sont d'époque de la production du film. Si vous avez un film dans les années 60, bah, je suis historienne. Hein tout ce qui n'est pas présent est du passé. Hein, donc, il raconte aussi l'histoire du cinéma. ces costumes et l'histoire du costume de cinéma, sans, tout en étant des références à l'histoire de la mode de cette période de la Renaissance, hein, qui couvre, en France, quand on dit Renaissance, on entend plutôt 16e siècle, mais c'est plutôt 15e, 16e si on met en l'Italie dans la représentation cinématographique. Voilà, donc vous pouvez me rappeler ce que...
Alors, on en est finalement à présenter cette exposition. Oui. Elle est donc, si j'ai bien compris, chronologique?
Alors, tout dépend. C'est compliqué pour une exposition. La question du choix des costumes, c'est un petit peu comme si on exposait des costumes anciens. Tout dépend de ce qui est conservé. Et là, essentiellement par les sociétés de location de costumes qui fabriquent aussi des costumes pour des productions de cinéma. Donc, on est un peu tributaire de ça. On ne peut pas faire une histoire de la mode à travers le costume. Donc là, j'ai choisi dans l'organisation de l'exposition de partir au début d'une approche plus chronologique. Voilà, l'Italie, 15e et début 16e siècle. Et ensuite, passer à l'Angleterre, début, à l'époque des Tudors, en fait, début 16e et fin 16e, et ensuite passer aux guerres de religion en France, qui dans le cinéma français, il y a deux grands films, hein, La princesse de Montpensier et La reine Margot de Chéreau, qui sont importants. Donc là, on a pas mal de costumes de cette période-là. Donc on est dans les années ici 1560, 1572. Et voilà, et ensuite on termine sur aussi tout l'imaginaire qui s'est créé à partir des formes vestimentaires très particulières des costumes de la Renaissance et qui ont été reprises dans la création de costumes pour les contes de fées.
Mmh. Alors, voilà. C'est à voir jusqu'au 19 septembre. Isabelle Parisi, si j'ai bien compris, le costume, c'est aussi le marqueur visuel de la temporalité du film. Dès qu'on voit un extrait de film, on doit savoir immédiatement en quelle période on se situe.
Il y en a une double temporalité. Il y a la temporalité de l'époque historique qui est représentée et il y a la temporalité qui est parfois plus complexe à saisir de la période de production du film.
Pour en revenir vraiment aux vêtements, est-ce que le rôle du vêtement il a changé entre la Renaissance et aujourd'hui?
Je partirai d'un constat très simple. Ni à la Renaissance, ni aujourd'hui, on se promène tout nu dans la rue. On vit en société en étant vêtu dans nos cultures. Hein. Donc, en ce sens-là, non, le rôle du vêtement n'a pas changé. Le rôle du vêtement exprime, hein, sur le plan anthropologique, il y a aussi la question de l'identité qui est très importante. Alors, effectivement, les identités sociales étaient beaucoup plus affichées par le vêtement qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ces identités sociales existent aussi. On peut appartenir à des subcultures, etc., pour affirmer des identités différentes de la norme, qui est très normalisée par la production de l'industrie, de la mode, de prêt-à-porter, qui diffuse en fait des formes qu'on porte maintenant partout sur la planète. On porte un t-shirt, un jean, voilà. Ensuite, qu'est-ce qui va faire la différence dans la façon de se vêtir? Ce sont des petites subtilités. Donc, on va s'identifier à des groupes spécifiques. Voilà. Et on a la même chose aussi à la Renaissance. Hein. Le vêtement est une affaire d'identité, quelles que soient les périodes de l'histoire. Mais en prenant des formes différentes, avec des matériaux aussi qui peuvent être différentes. Alors, la Renaissance a une spécificité, c'est... ce sont les vêtements très volumineux. C'est la période qui va lancer cette mode des vêtements très amples autour du cou, autour du corps, autour du cou aussi, puisqu'il y a la fraise, mais elle ne va pas durer dans le temps. En revanche, le corsetage des femmes, l'ajustement très étroit au buste des femmes, même aussi au buste des hommes d'ailleurs, et les extensions au niveau des hanches, des volumes qui vont donner ensuite les paniers au XVIIIe siècle et les crinolines au XIXe et qu'on retrouve encore dans la création de haute couture quand on va faire des grandes robes de bal. Et c'est ces formes aussi qui imprègnent la représentation des princesses de contes de fées.
C'est une exposition à voir jusqu'au 19 septembre, depuis le 26 juin, au château de Gramont, dans le Tarn-et-Garonne. Vous y êtes samedi, Isabelle Parisi, pour une conférence Costumer la Renaissance. Merci d'avoir été avec nous pour en parler.
Je vous remercie.
Au revoir.
Au revoir.